À 3 km de l'endroit où m'avait laissé le capitaine de Silva se trouvait un campement d'ouvriers du caoutchouc. Basés à l'intérieur des terres, ces hommes étaient nos alliés. Le camarade Pablo, un homme de mon équipe, vivait avec eux à l'époque. Il vint me voir le lendemain de mon arrivée et me conduisit jusqu'au camp. Je reçus un très bon accueil. J'avais apporté quelques conserves pour en faire cadeau et les camarades furent ravis en voyant ces haricots américains. Pour le camarade Pablo, j'avais un cadeau particulièrement ironique. Une conserve d'ananas cueillies au Brésil, conservée dans de l'huile de palmier d'Argentine et du sucre du Honduras, protégée par de l'aluminium qui avait été raffiné à partir de bauxite péruvienne, le tout cédé à un prix ridicule et transporté par bateau jusqu'aux États-Unis pour servir d'accompagnement à un délicieux jambon rôti, dont les reliefs ornent négligemment les assiettes de réactionnaires sans scrupules, tout entiers absorbés par les écrans froids et bleus de leur salle de séjour. Et si lumineux en vérité qu'on peut en voir le clignotement surnaturel à travers l'écran d'arbre devant leur maison. Leurs lèvres accompagnent le bulletin télévisé en marmonnant de muettes prières commerciales. Un peu comme quand vous attendez au feu rouge au volant de votre voiture et que la radio est allumée. Vous fredonnez le thème qui est diffusé. Vous regardez alors dans le rétroviseur et vous voyez le conducteur derrière vous qui remue ses lèvres d'un air extatique au même rythme que vous, tout comme le type derrière lui et la fille pleine de boutons derrière lui. Puis le feu passe au vert, vous abaissez votre pied sur cette bonne vieille pédale bien large et naturellement vous ne pouvez pas vous empêcher de klaxonner en signe d'exquise fraternité. Mais moi, en voyant cet ananas dans un magasin, je l'avais sauvé et réexpédié bien gentiment en Amérique latine. Après un excellent dîner composé de fritures de poisson et de longes de tapir, nous allâmes tous nous étendre sur la berge du fleuve, en fredonnant des chansons tristes et en balançant des reliefs dans l'eau. Plouf! C'était une nuit magnifique, et les exhalaisons nocives des arbres, si vous vous rappelez, nous montèrent droit à la tête. Nous fûmes pris de vertige et imaginâmes un univers vaudou en état de guerre permanent, où l'électricité serait inutile. Les soldats morts se lèvent de leurs fosses communes pour se rendre dans la jungle à notre signal. Ils n'hésitent pas à marcher au fond des rivières et des océans quand il le faut, s'enfonçant jusqu'à leurs os pelviens en décomposition, mais avançant sans cesse au milieu des poissons nécrophages qui grignotent leurs yeux indifférents. Puis, à notre signal, ils tendent les bras vers la surface pour que les réactionnaires occupés, comme tous les dimanches après-midi, à faire du yacht et à barboter, et l'impression que les racines enchevêtrées des palétuviers veulent les attraper. Des racines dures, jaunâtres et osseuses, qui ratissent l'eau afin que personne ne leur échappe. Et en un rien de temps, nous pourrions convaincre la bourgeoisie de la légitimité de toute prise de pouvoir. Je discutais avec mes hôtes dans la mesure où ma connaissance du portugais me le permettait. Chacun fit sur l'autre une impression formidable, ce qui est souvent le cas quand des gens naguère puissants se réunissent. J'offris à Pablo, qui plus tard devait me trahir, une somme suffisante pour acquérir une cage métallique à Lima la semaine suivante, date à laquelle je comptais bien avoir capturé un insecte. J'étais alors un homme de taille moyenne, avec des doigts crochus et une peau très blanche. Mes yeux restaient grands ouverts et calmes. Mais si un ophtalmologiste les avait examinés avec une rigueur toute métaphysique, il aurait pu remarquer le scintillement cruel de mes pupilles, la détermination de mes iris et tout le reste. Je déclarai au camarade Pablo qu'il pouvait utiliser la maison de San Salvador et que nous pouvions nous permettre d'envoyer un autre sous-marin dans ma base secrète située sur une île. Ce n'était pas un ordre ni un ultimatum, mais plutôt comme une note de service. Le camarade Pablo s'assombrit en se voyant ainsi rappeler qui détenait le pouvoir suprême. Mais il promit d'exécuter finalement les ordres. Je lui demandai ensuite s'il pouvait me fournir une torche le temps de ma mission, car j'avais lu que les insectes, les serpents et autres créatures inférieures étaient d'ordinaire aisément hypnotisés par la lumière. Il me céda la sienne avec un tel empressement que je fus presque tenté de faire de lui un colonel. Comme l'a dit Rosa Luxembourg, historiquement, les erreurs commises par un mouvement vraiment révolutionnaire sont infiniment plus fécondes que l'infaillibilité du comité central le plus intelligent. Ce ne fut peut-être pas une si grave erreur après tout, car Pablo attendit presque une semaine avant de me trahir. Moi, Big George, je jure solennellement avoir capturé le 2 juillet mon premier insecte. Il serait bon de rappeler au lecteur que dans la jungle, il se produit quantité de bruit qu'on ne peut s'expliquer. Si bien qu'en entendant un fracas et un gémissement, ou une plainte au-dessus de vous, la seule chose à faire, c'est de tirer immédiatement. Pan ! Bla ! Zop ! Les Américains ne firent pas autrement quand ils s'occupèrent du Che Guevara et de sa bande. Les éléments subversifs avaient installé leur campement au cœur de la jungle. Il faisait nuit. C'était une heure particulièrement dangereuse pour aller chasser. Et merde, le temps risque de perdre des gars. Les éclaireurs allèrent donc survoler la zone dans des avions de reconnaissance silencieux. Localisèrent à 10 km d'altitude le rougeoiement du petit réchaud de camping grâce à leurs scanners à infrarouges. Parachutèrent quelques centaines de paras munis de mitraillettes armées, encerclèrent le campement. Et à ce moment-là, malheureusement, le Che, ou peut-être quelqu'un d'autre, fit un drôle de bruit et tous les bérets verts furent contraints d'ouvrir le feu. Le calme qui s'ensuivit ne fit assurément qu'accroître la désagréable impression déjà produite. Ainsi donc, la première chose qui attira mon attention en entrant dans la forêt muni de mon fusil de chasse calibre 12, ce fut un interminable bruit de branches qu'on casse, comme si quelque énorme mille-pattes blindées se débattaient dans les EVA. Il ne pouvait s'agir d'un tank éclaireur, car j'aperçus des antennes et une large courbure d'un bleu vert de gris foncé. La chose s'agitait derrière un arbre abattu lorsque je tirais. Je la ratai et dus tirer de nouveau au moment où elle émergea. Cette fois-ci, je lui expédiai en plein dos une bonne décharge de plomb. Elle s'écroula sur le flanc en battant des pattes. Je courus vers elle et lui jetai ma chemise sur la tête, pour autant qu'elle eût une tête, puis liai ses mandibules avec du fil d'emballage. Ainsi rendue inoffensive, elle ne pouvait plus me faire de mal et je pus l'attacher à un arbrisseau pour extraire mes balles. L'opération fut un succès. Je la ramenai à notre camp et l'enfermai dans une cage à singes avec une soucoupe de lait et un lapin récemment tué en guise de consolation. Quand la cage métallique arriva de Lima, nous y transférâmes la bestiole et lui donnâmes une ardoise pour qu'elle s'exprime. Le camarade Pablo lui enseigna notre alphabet. Quand l'insecte, ce devait être une espèce de scarabée, reprit connaissance, il témoigna d'une disposition si chaleureuse et si affectueuse à mon égard que je décidai de l'emmener avec moi lors de mon retour aux États-Unis. Nous apprîmes rapidement à communiquer l'un avec l'autre, car c'était un insecte très intelligent et il comprit qu'il ne pourrait jamais s'échapper et serait sévèrement traité s'il ne mettait pas de la bonne volonté à obéir à mes instructions. Si l'on en croit Von Frisch, le langage des abeilles consiste en signes semblables à ceux qu'utilise notre pauvre population d'idiots et de sourds. Chaque espèce possède son propre langage, aussi distinct sans doute que l'est le français de l'allemand. Ces scarabées ont apparemment mis au point un espéranto insecte qui peut s'avérer très pratique lors d'agressions instinctives. N'étant point linguiste, j'insistais pour que mon prisonnier parle ma langue. La conversation eut lieu dans un petit baraquement mis à ma disposition. Quels sont vos véritables objectifs ? Lui demandai-je. Combattez-vous la réaction ou la race humaine en général ? Il agita ses antennes. Vous faire mal ! Écrivit-il. Scarabée a mal ! Vous tuer et nous mourir. Voulez-vous devenir notre troupe d'assaut contre les réactionnaires? Vous nourrir nous, pas faire souffrir nous, et nous aidez-vous. Quelle est la composition de votre comité central? Lui demandai-je, mes lunettes étincelantes d'excitation. Grand scarabée souffrir quand nous souffrir, nous combattre électricité, faire mourir vous. Et pensez-vous que le grand scarabée serait d'accord pour soutenir nos forces? Tous les scarabées souffrir, nous enfouir pince et mandibule, nous souffrir, certainement, monsieur, nous mourir, vous. Le lendemain, Pablo libéra le scarabée, par pitié, selon lui. Je pense qu'il était au service de Mr. White. Cela eut de terribles conséquences pour nous et nos dossiers secrets, car cette même nuit, les insectes déboulèrent de la jungle, nous attaquant en vagues rapides et incessantes. Je fus fait prisonnier et entraîné dans de sombres profondeurs vertigineuses sous des montagnes, au fond de mers chaudes comme mes zombies, avec un unique roseau dans la bouche pour pouvoir respirer, à travers des fougères gluantes, des incubateurs, des salles de classe souterraines où l'on enseignait la stratégie aux cafards, le long de puits de mines abandonnées et de tunnels pratiqués dans des piles de dossiers dans une aile obscure d'une branche oubliée d'une zone condamnée de la fameuse bibliothèque du Congrès à Washington. Et me voilà prisonnier dans les grottes du Grand Scarabée, à rêver d'une prise électrique ou d'un peu plus de lumière, pour y voir clair, pour pouvoir lire, pour construire un générateur avec des cure-dents et des larmes, car seul le courant électrique pourra me sauver. Avec lui, je pourrai tout faire, percer des trous dans les murs ou créer un champ de force pour me mettre à l'abri de mes geôliers. Ou encore, si tout cela échoue, établir de petites usines pour mettre à profit ici le reste de mon existence.